dans 25 minutes maintenant, une nouvelle édition.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir, c'est vous. Merci d'être branché sur VOA Afrique. Eric Mandrakiza avec vous ce soir dans l'Amérique et vous. Au menu, la présidentielle américaine du 3 novembre 2020, Lionel Lunadelagahima assure la mise en ordre. Les Américains se rendent aux urnes le 3 novembre prochain. Ils devront choisir la continuité de l'administration Donald Trump-Mike Pence ou l'alternance proposée par le ticket Joe Biden-Kamala Harris. Le président Trump y avait promis en 2016 de rendre l'Amérique sa grandeur, Make America Great Again. Ne cesse de marteler son mot d'ordre de campagne, rétablir la loi et l'ordre. Dressant un tableau apocalyptique, l'ancien vice-président Joe Biden promet de sortir le pays des ténèbres pour reconstruire une Amérique généreuse et forte. Marqué par la pandémie qui a fait plus de 185 000 morts aux États-Unis, une profonde crise économique et une vague historique de colère contre le racisme, la campagne pour la présidentielle du 3 novembre culmine des facteurs inédits. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, bienvenue sur VOA Afrique. L'Amérique et vous de ce soir accueillent trois invités. D'abord, Denis Beaver, il est avocat à Batchfield, c'est en Californie. Bonsoir.
Bonjour, de Californie, où il fait, à Bakersfield, il fait très, très, très chaud.
Merci, et vous êtes un indépendant, mais vous penchez sur le côté républicain.
Oui, c'est exact, oui.
Et vous soutenez l'agenda du président Trump.
Oui.
Et René Leck, c'est notre deuxième invité, il se trouve actuellement à Long Island, au bord de l'océan. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Il fait très beau aussi.
Il fait très beau ici également.
Vous êtes penché plutôt du côté démocrate.
Oh, je suis un analyste politique complètement indépendant, mais c'est vrai que philosophiquement, je suis plus à gauche qu'à droite, quoi, si vous voulez simplifier un peu.
Merci d'être avec nous. Ismaël Diallo, c'est notre troisième invité. Il est activiste burkinabé en vacances à Atlanta. Monsieur Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là également.
Merci.
Alors, le président Trump s'oppose en défenseur de la sécurité des Américains face à des démocrates, je cite, et radicaux. Pensez-vous que c'est une idée mobilisatrice et gagnante, Monsieur Beaver?
Oui, je pense qu'il a raison. C'est vraiment... c'est incroyable ce qu'on se trouve dans le pays. À Seattle, à Portland, New York, dans d'autres villes... c'est OK, les manifs, hein, mais les émeutes, pillages, tout ça, alors ça, ils sont en train, ces mecs, ils sont en train vraiment de détruire le pays. Il faut quelqu'un fort comme Trump pour nous sauver.
Monsieur Beaver, en 2016, Monsieur Trump, alors candidat, s'était aussi présenté comme le président de la loi et de l'ordre. Quelle est la différence aujourd'hui?
Très peu, mais la situation s'aggrave beaucoup, c'est beaucoup plus sérieux. Tu vois ces anarchistes à Portland, par exemple, ils sont en train de détruire la ville, et le maire gouverneur démocrate s'en fiche complètement. Alors c'est vraiment dingue, il faut quelqu'un qui est fort, qui peut agir contre ça, à mon avis.
Et René Leck, votre commentaire?
Oui, écoutez, je crois qu'effectivement, le slogan, le discours et l'insistance de Donald Trump sur cette question de la loi et de l'ordre est une stratégie politique d'abord, mais qui semble même marcher un peu. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, la nouvelle série de sondages qui sont sortis parle d'un resserrement au niveau des sondages pour lesquels Biden a un avantage significatif, du moins jusque-là, mais ça se resserre et il semblerait que cette insistance sur cette stratégie-là semble marcher, parce que de plus en plus d'hommes et de femmes dans ce pays sont un peu refroidis par les émeutes qu'il y a ci et là à travers les États-Unis à la suite de ce mouvement assez fort de Black Lives Matter. Donc il y a là une stratégie qui semble marcher. Je pense que Donald Trump va continuer à s'insérer dans ce gouffre-là. Mais je note également rapidement, Eric, qu'aujourd'hui, il y a juste quelques heures, hein, il y a moins d'une demi-heure, Joe Biden, qui est dans le Wisconsin, à Kenosha, précisément, intervenu, et comprenant qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, il a condamné de manière beaucoup plus ferme que d'habitude les émeutes, la casse qu'il y a à la suite des manifestations, etc. Parce qu'il se rend compte qu'effectivement, un discours de la loi et de l'ordre est en train de résonner pas mal dans le pays.
Mais le président Trump accuse Biden de tolérer les violences et d'être une caisse de résonance de la gauche radicale du Parti démocrate.
C'est justement pour cela que Biden a été, il y a quelques minutes, assez ferme dans son dans sa condamnation, en expliquant, il reste didactique, hein, il n'est pas resté juste de manière, pas intervenu de manière négative, mais en expliquant que ce n'était absolument pas productif et que ce n'était absolument pas acceptable.
Mais, Monsieur Buveu, vous dites qu'il y a trop d'anarchie, il y a des violences, qu'il faut un président fort, mais ça se passe pendant la présidence de Donald Trump, c'est ce que même Biden a dit dernièrement dans son discours. Quel est votre point de vue?
Biden a dit que c'est la faute chez Trump. Alors ça, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Biden, finalement, il réagit. Finalement, il dit, oh là là, ça suffit, les émeutes, on n'en a pas besoin. Avant, les démocrates n'ont rien dit. Et eux, ils ont soutenu ces gangsters, ces anarchistes. Donc, c'est pas la faute de Trump. Et Trump, il voit ce qui se passe, et il dit, il faut faire quelque chose, je vais le faire. Vous gouverneurs, vous maires, vous en votez complètement, moi, je vais le faire.
Monsieur Diallo?
Je ne suis pas américain, mon épouse l'est. Je suis les informations, les développements politiques, sociaux, culturel aux États-Unis depuis la présidence JFK, John Kennedy, et je visite les États-Unis et séjourne plus ou moins longuement depuis 1975. Et je vous avoue que je n'ai jamais été autant perplexe, interloqué, déçu que ces trois dernières années. Je découvre une Amérique que je ne connaissais pas. Une Amérique où l'Américain est d'abord républicain ou démocrate avant d'être américain. Une Amérique où il y a une déchirure incroyable, inimaginable. Une Amérique où maintenant, quand je sors en tant qu'homme noir, je fais très attention à où je suis, ce que je dis, qui je rencontre. Je n'ai pas connu cette Amérique-là. Même si, je vous le dis, c'est aux États-Unis en 1975 que j'ai été plus éveillé à la différence dite prétendument raciale, ou plutôt à la différence de couleur de peau. J'avais été en Europe avant cela, mais je ne l'avais pas perçu de manière nette. C'est aux États-Unis ici qu'allant dans certains restaurants, dans certains bars, je me suis fait traiter d'homme noir, de personne noire. Et j'ai découvert cette différence-là. Bref, ceci dit, je suis extrêmement, je l'ai dit, extrêmement déçu de constater que les Américains, aujourd'hui, sont une nation éclatée, une nation déchirée. Et déchirée sur quelle base? Sur des bases stupides, des bases de couleur de peau. Le racisme est systémique, mais on ne le reconnaît pas. Aucun blanc ne va vous dire ouvertement, oui, je reconnais, il y a le racisme structurel, institutionnel aux États-Unis. Aucun ne vous le dira.
Et pourtant, mais Biden, il est blanc, il le dit.
Oui, il le dit maintenant. Maintenant, il le dit et il a besoin des voix noires pour cela, voilà pourquoi il le dit. Mais combien de blancs vont reconnaître qu'ils ne le disent pas, qu'il y a un racisme? Il y a des exemples quotidiens et de tous les jours que chacun peut donner pour le prouver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme ailleurs. Hein. Le racisme est la chose la plus partagée au monde, dans tous les pays du monde. Mais il a atteint aujourd'hui aux États-Unis un seuil inimaginable, inimaginable.
Monsieur Beaver, est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis sont un pays aujourd'hui déchiré?
Non, pas du tout, pas du tout. On a, monsieur, il a bien raison, hein, on a des problèmes sur ce qu'il dit. Certainement, on a éprouvé ces sentiments de racisme, oui, mais il y a plusieurs explications. Mais dis-moi, pourquoi la population dans les prisons, la plupart, sont les Noirs? Une bonne question. Ça ne veut pas dire que tous les Noirs sont mauvais. Non, mais il y a des raisons.
Vous voulez une réponse?
Oui, racisme.
Mais c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple la réponse. Et je suis étonné que vous donniez cet exemple-là, monsieur, vous étant un Américain. Je suis vraiment étonné, et d'un certain âge. Vous savez très bien pourquoi il y a tant de Noirs en prison. Parce que le système les envoie en prison au moindre dérapage. Au moindre dérapage. Vous avez vu l'autre jour ce jeune blanc de 17 ans avec un fusil de guerre qui marche gaillardement, sans problème, même devant des policiers, et qui fait le brave, qui fait le fanfaron. Il aurait été noir qu'il aurait eu 40 balles dans la peau. Alors, et encore, quand est-ce qu'il a été mis en prison après qu'il ait fait ça? Simplement parce qu'il est blanc, on l'a traité autrement. Alors, ne devez pas trouver un exemple plus convaincant. Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais parce que je suis outré par l'exemple que vous donnez.
Monsieur Buvin, une réponse?
Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Hein. Il y a dans ce pays que, par exemple, l'Afrique, qui a reçu un noir, qui est en train de chercher un couteau. Ah, le pauvre noir, c'est le flic qui a tort. Toujours, toujours. Au lieu de poser la question, qu'est-ce que le mec allait faire avec le couteau? Il allait pas poignarder le flic s'il pouvait le faire. Non, c'est complètement dingue. Alors, on ne veut pas accepter que la criminalité existe. Les flics sont là pour nous protéger, noirs et blancs, tout le monde. Et il y a actuellement, à mon avis, malheureusement, il y a une guerre raciale. Ça se sent. Et c'est vachement dangereux.
L'Amérique et vous, sur VOA Afrique, depuis Washington DC, notre débat continue dans un instant.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Eric Manirakiza, de retour avec vous. On parle de la présidentielle américaine du 3 novembre. Qui proposera le président sortant Donald Trump et son rival démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden? Monsieur Diallo, le président Trump a affirmé que les Américains ne seront pas en sécurité sous la présidence Biden. La campagne de Biden accuse à son tour le président Trump d'attiser la haine et la violence. Comment transcender la question de la violence, selon vous?
C'est le système qui a institué la violence. Les États-Unis d'Amérique se sont créés dans la violence. C'est une société violente à l'origine et qui vit sur la force et sur la violence. La démocratie, l'état de droit, c'est du chrome, c'est des enjoliveurs. Mais le fondement, c'est la violence et c'est la suprématie d'un groupe sur tous les autres groupes. La terre a été volée aux autochtones, a été retirée aux autochtones qui sont parqués dans des réserves. Et tous les autres qui sont venus doivent être des wagons de la locomotive qui est là, d'origine européenne. Mais si on ne reconnaît pas ça, on ne peut pas avoir de discussion, on ne peut pas avoir de débat. Il faut d'abord reconnaître cela d'abord avant qu'on aille plus loin. Maintenant, de M. Trump, j'aurais préféré ne pas parler de lui. Parce que j'en pense très peu. Toujours est-il que cette violence n'a pas été créée par lui, mais elle a été exacerbée par lui. Et celui qui ne veut pas reconnaître cela démontre simplement qu'il est, qui ou elle, il y a des femmes également, qu'il est tellement attaché à l'homme, de manière affective, de manière par conviction qu'il ne peut voir aucun mal de son côté. Le mal est ailleurs. Le mal est chez ceux qui ne sont pas blancs. Le mal est chez les blancs qui ne pensent pas comme Trump, etc., etc.
Et René Lec ?
Oui, écoutez, Eric, c'est une conversation, une discussion intéressante. De mon point de vue, je crois qu'il n'est pas possible d'évacuer, de délaguer, de comment devrais-je dire, de fermer les yeux, de faire comme si effectivement l'Amérique n'avait pas son péché originel. Et je pense que Ismaël Diallo l'a dit très clairement, le péché originel, c'est celui d'un double génocide. Un génocide des populations autochtones native américaines, comme on dit, donc américains, les Indiens américains ici aux États-Unis, et ensuite un génocide actif, dynamique, j'ai presque envie de dire, pour être un peu provocateur, de celui de l'esclavage, qui s'est prolongé de mille différentes manières pendant 400 ans et jusqu'à aujourd'hui, qui se prolonge dans différents secteurs de la vie américaine. C'est bien pour cela qu'on parle de racisme systémique dans le secteur de l'éducation, dans la santé. Regardez aujourd'hui au niveau du Covid, de l'accès aux soins médicaux, au niveau de la question judiciaire. Ismaël Diallo en parlait tout à l'heure dans sa conversation avec Denis. Donc, c'est évident, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas, quelqu'un de sérieux ne peut pas remettre en cause l'existence du racisme systémique institutionnel organisé qui perdure, qui n'est pas nouveau, hein, qui perdure, j'insiste sur le mot de perdurer, parce que c'est sur la durée, ces 400 ans, il se transforme, heureusement, en mieux, ça s'améliore. Il est évident que le racisme aujourd'hui et l'effet du racisme aujourd'hui aux États-Unis est autrement plus supportable qu'il y a 50 ans ou 100 ans ou 200 ans. Ça, c'est une évidence, si c'est de ça dont on veut parler. Mais la question de fond, c'est que le pays est structuré et organisé, les institutions fonctionnent autour de cette question-là et qui maintient les Noirs dans une situation précaire à tous les niveaux de leur vie quotidienne.
Monsieur Buveu, que répondez-vous à Diallo et à René Lec ?
Il y a tant de maires et dans certains pays, gouverneurs, qui sont noirs. Il y a beaucoup de noirs qui ont vraiment sont des succès, hein, dans cette société raciste, comme on dit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, il y a certainement les Américains qui n'aiment pas les Noirs qui n'aiment pas les Blancs. Hein. Dans ce pays quand même, si on travaille, si on maîtrise la langue américaine, si on parle comme il faut, si on peut écrire un bon anglais, si on bosse, si on ne demande pas l'argent gratuit de l'État, si on veut travailler, peut quand même faire un succès de soi-même au lieu de dire donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Ça, c'est ma réponse.
Et comment, selon vous, faut-il gérer cette question raciale pour rassurer toutes les catégories de la société américaine?
Je crois que les médias exagèrent beaucoup. Oui, le problème actuellement, c'est que au lieu de poser une question, alors pourquoi le flic a fait ce qu'il a fait? On pense tout de suite, le flic, un flic, un noir, le flic a toujours tort. Donc ça bute, disons, de benzine sur le feu. Hein. Les médias exagèrent beaucoup et le résultat, c'est qu'on a ces manifestations, ces émeutes. Je pense que les médias créent cette sorte de guerre raciale, puisque ça, c'est rentable pour eux.
Mais les médias ne prennent pas les décisions, ne dirigent pas.
Les médias sont à gauche, la plupart des grands médias, CNN et d'autres, New York Times, sont tellement à gauche, que les minorités ont toujours raison. Le blanc n'a jamais raison. C'est vraiment dingue.
Quelle est la solution finalement?
de tout ça, Monsieur Buveur?
Que les journalistes, d'abord, devraient dire la vérité au lieu de d'écrire, d'inventer des faits, au lieu de... J'ouvre le journal le matin, et c'est toujours contre Trump, contre les républicains, le métier du journalisme souffre beaucoup, et la vérité souffre beaucoup. Et tout ce qu'on voit, c'est une propagande contre les blancs chez les grands médias. C'est ce qu'on voit chaque jour.
René Lec, très rapidement sur cette question des médias.
Oui, écoutez, les médias, c'est le reflet de la société. Hein. Je ne veux pas faire dans les généralités, mais c'est une réalité. Les médias expriment ce que ressent la société, ce que dit les êtres dans la société. Et bon, les États-Unis n'y échappent pas. Bon, c'est vrai que les républicains à droite, on pense que la plupart des médias sont des médias de gauche, mais à gauche, on parle, on fait attention et on fait souvent référence aux médias de droite tels que par exemple Fox et autres qui sont en réalité très agressifs et qui sont souvent plus dans la propagande qu'autre chose. Donc c'est vrai que bon, pour un républicain, présenter des faits et se limiter à la présentation des faits, à l'analyse des faits, c'est souvent perçu comme un discours de gauche, alors que bon, pour beaucoup de gens, d'être raisonnable, si vous permettez l'expression, ça n'a rien de gauche ou de droite, c'est simplement présenter les faits. Mais c'est sûr que quand une idéologie conservatrice de droite est en train de se développer, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis et dans bien d'autres pays dans le monde, hein, il faut le dire, est en train de se développer sur des bases complètement idéologiques, en dehors de la réalité des faits, en ne reconnaissant pas justement des évidences comme le racisme systémique, en ne reconnaissant pas la question du changement climatique, des questions qui sont des questions, en n'acceptant même pas les résultats et les informations de la science, par exemple par rapport au Covid-19, etc. C'est sûr que bon, quand on voit le monde comme cela, et que d'autres et que des gens s'expriment et donnent se basent essentiellement sur les faits, c'est perçu comme un discours de gauche. Aujourd'hui, la science elle est considérée de gauche par la droite, les faits sont considérés de gauche par la droite. On s'en sort plus là. On est en plein dans le délire idéologique et je crois qu'il faut en sortir.
Ismaël Diallo, très rapidement.
Oui, je viens d'entendre une expression qui cadre très bien le délire idéologique. Le précédent interlocuteur est le prototype, l'exemple parfait de l'Américain blanc qui campe sur son identité et qui insiste coûte que coûte, quel que soit le coût et le prix, au maintien du statu quo. Et le statu quo, c'est quoi? C'est que la locomotive du train est blanche, dirigée par des blancs, conduite par des blancs. Et que tous les autres, surtout les noirs, doivent rester être des wagons. Et rien que des wagons accrochés à la locomotive. Sans initiative, sans pouvoir quelconque. Et quand il s'étonne que le noir sort un couteau pour peut-être tuer le policier. Mais c'est effarant comme expression. C'est effarant. Et ça prouve qu'il ne connaît pas l'histoire de son pays ou il feint de ne pas connaître l'histoire de son pays. Il croit que 400 ans de meurtrissure, de brutalité, de torture, de déni de soi, de pendaison, se soigne comme ça en 2 décennies, en 3 décennies. Ce qu'il dit aux Noirs, c'est que vous devez être content d'être des Américains, de vivre aux États-Unis. Alors soyez disciplinés, soyez polis, soyez bêtes et disciplinés et restez tranquilles. C'est ça qu'il est en train de dire.
Nous arrivons au terme de l'Amérique et vous, ce soir, on parlait des enjeux de la présidentielle américaine qui se tiendra le 3 novembre prochain. Merci à Denis Bible, avocat à Bakersfield, c'est en Californie. Merci.
Merci à vous.
Merci à René Lec, vous êtes analyste politique. Merci.
Merci bien, Eric, de m'avoir invité.
Ismaël Diallo, un grand merci. Vous êtes activiste et burkinabé.
Merci.
Lionel Nagarima a assuré la mise en ordre. Au micro, Eric Mandakiza. Excellente soirée. À vous tous. À la prochaine.